L'esprit est le contraire de l'argent.
Tous les jours sur Europe 1.
Moins on en a, plus on est satisfait. Voltaire.
Historiquement vôtre.
Après tout, c'est tant mieux. Et Van Gogh, c'est pas une famille d'artistes.
The successor to the kings and queens of history.
Là, Seigneur Colomb, c'est là précisément que nos opinions divergent.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous, Clémentine, Jean-Luc, David,
bonjour
à avec nous aujourd'hui, notre guide culinaire vivant et même bon vivant, Olivier Pouls.
Je vous salue les amis.
Nous aussi, on est ravis de vous retrouver, comme chaque après-midi sur Europe 1, pour vous raconter l'histoire sans se la raconter en compagnie de trois personnages qui n'auraient jamais pu se croiser, qui ne vivaient pas à la même époque, mais qui ont un point commun. Aujourd'hui... Ils ont brisé la glace. C'est le thème d'Historiquement Vôtre cet après-midi. À commencer par un médecin et scientifique qui a passé sa vie à explorer les mers des régions polaires, je vous raconte Jean-Baptiste Charcot et ses expéditions glaçantes. Puis, lui était un capitaine confirmé, Edward Smith, le roi des tempêtes, le Commodore, le capitaine Star qui a pris les commandes de nombreux paquebots parmi les plus imposants du moment. Mais si son nom est passé à la postérité, c'est pour avoir été le premier... et surtout le dernier, a manœuvré un bateau qui a brisé la glace et de nombreuses vies aussi, hélas, le Titanic. Et après les morts, le vivant, c'est vous Jean-Luc qui dresserez vers 17h30 le portrait de notre troisième personnage du jour, une star hollywoodienne qui a brisé la glace, elle aussi, mais dans un film resté célèbre.
Oui, elle avait deux accessoires pour cela, une culotte et un pic à glace, ou peut-être même juste le pic à glace. Je vous raconte Sharon Stone et le mythique Basic Instinct.
Eux, ils n'ont pas besoin d'accessoires pour attirer l'attention. Leur talent suffit. D'abord, celle qui nous entraîne dans l'intimité de l'histoire, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. De qui nous parlez-vous ?
Eh bien, justement, si j'aurais besoin d'accessoires, Stéphane, aujourd'hui, pour évoquer une autre façon de briser la glace, ce sont les patins. Et je vais évoquer la Norvégienne Sonja Henie, née en 1912, la toupie blonde. On l'appelait aussi la reine de la glace. Elle a eu sur la glace un palmarès qui n'a jamais été égalé. Hein, 10 fois championne du monde.
Ah oui ?
Oui, oui, mais elle a brisé la glace aussi d'autres façons, vous verrez.
Elle a brisé des cœurs, peut-être.
Peut-être celui d'Adolf Hitler, oui.
Ah,
oh. Ah oui, David est intéressé.
Oui. Ah oui,
je oui justement. On parle d'Hitler, on pense à David Castelopez, ouais, mais en fait, vous remontez aux origines d'un objet, d'une mode, d'une passion, voire d'une obsession. Oui. On voit qu'il y en a plusieurs, oui. Et c'est souvent les siennes. Alors aujourd'hui, de quoi nous parlez-vous ?
Les avions en papier.
Ah oui.
Ah oui. Et de quand ça date, je vous dirai. C'est assez documenté.
Fallait déjà qu'il y ait du papier, en fait.
Hein. Oui, voilà.
Du papyrus.
Oui, mais l'avion n'existait peut-être pas non plus. Oui, voilà.
J'y ai pas pensé.
C'est ça qui est marrant.
Oui, mais vous, vous avez des avions en papier, mais vous savez pas que les avions existaient. Parce que... les origines, c'est dans toute fin d'émission, mais juste avant, comme dirait l'autre...
Mes aïeux, quelle époque, mes aïeux, quelle époque.
Oui, mes aïeux, quelle époque. Ça s'est passé dans le passé, aujourd'hui, on remonte au temps de Napoléon. Ça faisait longtemps, tiens. Si même vous, Olivier, vous vous y mettez, mais enfin, c'est Napoléon, question... côté cuisine,
ouais,
à table.
Ben, croyez-moi, il était meilleur sur un champ de bataille que derrière des fourneaux. Oui. On dit que Napoléon était l'empereur qui n'aimait pas manger.
Oui.
C'était triste.
Et pourtant, c'est le seul qui avait un ulcère.
Il avait un ulcère, le pauvre. Et le paradoxe, c'est que durant son règne, la cuisine française a connu quelques-uns de ses plus importants bouleversements.
Oui,
lui est passé à côté.
Eh bien, mes aïeux, quelle époque, ce sera tout à l'heure vers 17h40.
Voilà. Eh bien, d'avant cette séquence, Stéphane, vous allez avoir l'extrême satisfaction de jouer contre Clémentine Portier-Kaltenbach et ce durant un quiz dont la qualité n'est plus à prouver.
Oui, enfin, vous devez quand même essayer de la prouver quand même encore un peu. Mais pour l'heure, restez bien avec nous. Je vous raconte notre premier personnage du jour.
Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Son nom est connu de tous, Charcot. Mais dans la famille, ce n'est pas du père, le célèbre neuropsychiatre dont je vais vous parler, mais bien de son fils, médecin lui aussi, et surtout grand explorateur des régions polaires. Je vous raconte maintenant un navigateur et un scientifique exceptionnel qui n'a jamais eu peur de briser la glace, le Polar Gentleman, Jean-Baptiste Charcot. Nous sommes le 1er février 1904. Voilà 5 jours que le trois-mâts goélette, le français, a laissé derrière lui les hautes falaises de l'archipel de la Terre de Feu à l'extrémité sud du continent sud-américain. 5 jours qu'il a levé l'ancre et mis le cap plein sud direction les régions désertes, stériles, glaciales de l'Antarctique. Les mers réputées si dangereuses qui séparent le Cap Horn des Shetland du Sud au nord-ouest de la péninsule antarctique ne l'ont pas épargné depuis le départ. Et l'équipage du bateau, bien qu'aguerri, se remet à peine du fâcheux mal de mer que la violente houle leur a infligé. Le capitaine, lui, semble y avoir réchappé, trop préoccupé peut-être par le poids des responsabilités qui lui incombent désormais alors qu'ils ont quitté les côtes habitées de ce monde et les routes maritimes fréquentées. Et s'il échouait ? Et si les 19 hommes embarqués avec lui ne revenaient pas en vie à leur famille ? Et si l'illustre nom de son père, l'éminent neuropsychiatre français Jean-Martin Charcot, était sali par un échec lamentable ? Et s'il ne parvenait pas à justifier la confiance de ceux qui l'ont soutenu ? Le gouvernement français n'a pas été très aidant. Plus préoccupé par ses lucratifs territoires coloniaux que par ce désert stérile de l'hémisphère sud. Mais la communauté scientifique, la presse et le public, via une souscription lancée dans le journal Le Matin, se sont montrés très généreux. Il s'agit de ne pas les décevoir, de ne pas donner raison à ceux qui ont qualifié cette expédition scientifique de complètement folle. Très tôt, en ce premier matin de février 1904, vers 4 heures du matin, alors qu'il prend son car sur le pont, Jean-Baptiste Charcot, 36 ans, médecin et navigateur passionné, scrute l'horizon, l'air soucieux et l'esprit tout à ses inquiétudes, quand soudain, des bruits de clapotis et de braiements étranges le ramènent à la réalité. Charcot se penche au-dessus du bastingage et aperçoit une ribambelle de pingouins qui barbotent aux alentours du bateau. Enfin, des manchots plutôt. Il scrute alors l'horizon et aperçoit bientôt dans la brume une haute crête de sommet couvert de neige. L'estime veut qu'il se trouve aux alentours de l'île Smith, dans l'archipel des Shetland du Sud. Les voilà aux portes de la péninsule antarctique. Enfin, 5 mois après le départ du Français du Havre, en août de l'année précédente. Aussitôt, l'équipage est alerté. Sur le pont, tous regardent, fascinés, un peu effrayés, ces hautes côtes nacrées, inabordables, sinistres aussi car elles présagent des dangers à venir. Bientôt, une silhouette fantomatique attire tous les regards. Une masse inquiétante et gigantesque affleurant à 30 ou 40 mètres au-dessus de l'eau. Un cube de glace à la teinte blanc-bleuté, aux angles bien droits comme taillés à l'équerre. Le premier iceberg. Durant les 13 mois qu'ils vont passer aux abords du 6e continent, les 20 membres de l'équipage en verront d'autres, des centaines, des milliers d'autres, balisant le chemin comme autant de sentinelles étranges et menaçantes, tandis que leur navire se ferait un chemin à travers une eau de plus en plus encombrée de morceaux de banquise. Des fragments que la coque du Français, spécialement renforcée d'une armature en bronze, brise dans un vacarme assourdissant. 13 mois dans les glaces, donc, dont 9 les plus froids, passés en hivernage, prisonniers volontaires des glaces, amarrés dans une baie abritée de l'inhospitalière, mais fascinante, île Wendel à l'ouest du continent. Une immobilisation qui s'avéra fructueuse, puisque Jean-Baptiste Charcot et les 5 autres officiers partis avec lui mettent à profit ces longues semaines pour récolter une moisson de données précieuses sur cette île escarpée, habitée seulement de pingouins, de cormorans et de phoques, des mesures relevant de la géographie, de l'hydrographie, de la météorologie, du magnétisme terrestre, de la zoologie, de la botanique, de la bactériologie, de la biologie, de la géologie et de la glaciologie. Des observations récoltées dans des conditions météorologiques effroyables, par moins 30 degrés et sous des vents glaciaux atteignant parfois plus de 200 km/h. Une expédition en Antarctique n'est pas une sinécure. Charcot le savait avant de partir. Il savait aussi que nulle autre région du globe n'est plus favorable à l'étude des phénomènes physiques de notre planète. Et c'est pour cette raison qu'il s'est embattu pour monter cette expédition. Oh, ce n'est pas la France qui l'y a poussé, elle qui se désintéresse du continent depuis plus de 60 ans, depuis l'expédition de Jules Dumont-Durville à bord de l'Astrolabe. Non, l'initiative vient de lui et elle s'inspire de l'exemple des récentes expéditions étrangères menées en Antarctique, notamment anglaises et suédoises. Car Charcot a une double casquette, c'est un médecin et donc un scientifique, chercheur et esprit curieux, mais c'est aussi et surtout un navigateur aguerri, passionné depuis toujours par la mer et les bateaux. Également grand sportif, notamment champion de rugby en 1896 et double médaillé d'argent en voile aux Jeux Olympiques de Paris en 1900. Il aime repousser ses limites et se lancer de nouveaux défis. Ainsi, dès l'âge de 25 ans et grâce à la fortune que lui a laissée son père, il achète son premier bateau qu'il baptise le Pourquoi pas et part à son bord explorer les îles Féroé, puis l'île Jan Mayen au nord de l'Islande et jusqu'au-dessus du cercle polaire. Sa vocation d'explorateur des pôles est née. Une passion qui le pousse en 1903 à commander à la Société des chantiers navals de Saint-Malo un navire spécialement conçu pour les territoires polaires, la fameuse goélette Le Français. Une goélette solide, mais peut-être pas assez face aux glaces de l'Antarctique. Charcot et son équipage, libérés des glaces de l'île Vandel, ont remis le cap au sud en novembre 1904. Mais peu de temps après leur départ, le navire heurte violemment une roche invisible sous 2 mètres d'eau. Le bateau se cabre, presque à la verticale. « Arrière tout !» signale Charcot la machine. Mais c'est trop tard. Le bateau recule et retombe avec un sourd gémissement. L'eau entre par l'avant. La situation est grave, très grave. Impossible de calfater. Mais en pompant quasi continuellement, l'équipage parvient à garder le bateau à flot. Mais il faut rebrousser chemin et tout de suite mettre le cap sur l'Amérique du Sud. Le Français parviendra-t-il à supporter la traversée ? Oui, un peu par miracle d'ailleurs. Et 1 mois et demi plus tard, la goélette arrive à Buenos Aires où un accueil triomphal l'attend. Et alors qu'en France, des rumeurs pessimistes commencent à circuler sur le sort de l'expédition, Charcot crée la surprise et rentre finalement au pays les malles remplies de trésors scientifiques, la cartographie de plus d'un millier de kilomètres de côtes inconnues, des dizaines de caisses d'échantillons, de notes et de mesures diverses. Auréolé de gloire, il trouve sans mal les fonds nécessaires pour repartir. Sa seconde expédition, 4 ans plus tard, à bord du Pourquoi pas 4, s'avérera plus fructueuse encore, le menant jusqu'à la terre Alexandre Ier et jusqu'à une île plus au sud encore qui portera dorénavant le nom de Charcot. De retour en Europe en 1910, ses campagnes polaires sont un temps mises sur pause du fait de la Première Guerre mondiale. Des années durant lesquelles Jean-Baptiste Charcot s'illustre notamment en servant l'administration britannique à bord d'un navire chasseur de sous-marins. Mais un temps seulement, car dès 1918, Charcot repart pour de multiples expéditions scientifiques menant durant 30 ans campagne sur campagne dans les mers arctiques cette fois. Des campagnes souvent dangereuses qui finiront par lui coûter la vie à l'aube de ses 70 ans. Pris dans une tempête au retour d'une expédition au Groenland en septembre 1936, le Pourquoi pas 4 s'abîme sur des récifs à quelques milles nautiques de Reykjavik en Islande, tuant tout le monde à bord, sauf un maître timonier. La mort de l'explorateur ne passe pas inaperçue et la France offre à sa dépouille retrouvée en mer des funérailles nationales.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-Baptiste Charcot avec Clémentine Portier-Kaltenbach, nous avons le plaisir d'accueillir un autre aventurier des pôles. Bonjour Stéphane Dugast.
Bonjour, bonjour Stéphane.
Stéphane, vos aventures vous inspirent notamment des films et des livres et vous venez justement de publier une histoire de l'exploration Neiges et glaces des pôles à l'Himalaya chez Glénat et dans lequel vous présentez notamment le parcours de Jean-Baptiste Charcot. Quels étaient pour vous les objectifs de cette expédition de 1903 que je viens de raconter? C'était l'aventure et la gloire ou la recherche scientifique avant tout?
Bon, j'allais dire d'abord c'est la science, c'est d'aller cartographier, d'aller voir ces terres dont on connaissait que peu de choses. Donc on attribue la découverte de l'Antarctique à Jules Sébastien César Dumont d'Urville en 1840. Après c'est un long coma polaire français, il se passe plus rien en France. Et dans le même temps vous avez les Allemands, vous avez les Anglais, vous avez les Nord-Américains, vous avez plein de nations, les Norvégiens qui s'intéressent au pôle, ça va être une course folle. Et Jean-Baptiste Charcot a ce talent de ne pas vouloir aller au centre de ce continent, puisque l'Antarctique, c'est un continent recouvert de neige, de glace, mais d'aller le long de sa péninsule, le long de ses côtes, et d'aller voir ce qui y vit, parce que la vie biologique, la biodiversité, les animaux, les manchots, et non pas les pingouins, notamment les phoques, les baleines sont là. Et Jean-Baptiste Charcot y va. Mais néanmoins, pour y aller, il faut de l'argent. Alors certes, il a une fortune personnel, familial, mais il faut aussi un prétexte pour armer un équipage avec des scientifiques, avec des marins. Et là, on est dans une course folle au pôle. Il y a Nordenskjöld, le Suédois, qui a un peu disparu. Donc, il prétexte la, disparition du suédois pour y aller, parce qu'il y a encore un besoin impératif d'y aller. Mais néanmoins, ce qui l'anime, c'est cette quête scientifique et cette quête pacifique.
Mais pourquoi la France se désintéresse-t-elle à ce point de cette partie du monde? Et pourquoi est-ce si difficile pour Charcot de trouver de l'aide pour financer son expédition?
Ramenons les choses à l'échelle du temps. L'Antarctique, ce continent grand, a longtemps été un fantasme. C'était la Terra Australis Incognita. Le premier à vraiment s'en approcher, c'est James Cook, à la fin du 18e, mais il ne peut pas descendre à cause des glaces. On a un coup de chance, nous les Français, c'est que Jules-Sébastien César Dumont-d'Urville arrive à l'île des Pétrels et à s'approcher du continent antarctique. Mais vous avez cette barrière de glace, ces icebergs. On est avec une marine à voile, on n'a pas le moteur, donc c'est compliqué d'y accéder. Et puis la France est plus préoccupée par son empire colonial, à la fois en Afrique, à la fois en Extrême-Orient. Et les expéditions, les explorations sont plus faciles à organiser et en Afrique et en Extrême-Orient. Et
les unes rapportent plus alors que les autres coûtent.
Voilà. Et il y en a une, c'est totalement l'inconnue avec la promesse de parvenir.
En 13 mois, Charcot et son équipe ont fait de nombreuses observations grâce à leurs échantillons, leurs cartographies, leurs mesures. Finalement, quels ont été, selon vous, les apports scientifiques de cette expédition?
Les apports scientifiques sont considérables, puisqu'en Antarctique, il n'y a pas d'habitants, il n'y a que des animaux sur le pourtour et sur le littoral. On a une espèce de manchot, non pas de pingouin, qu'on a appelé manchot Adélie, en référence justement à la femme Adèle de Jules-Sébastien César Dumont-d'Urville. Et ça, c'est Charcot qui donne ce surnom. Et Charcot va observer cette biodiversité, va observer aussi les algues, va observer la roche, va observer la géologie, va observer la météorologie. Et en plus, Charcot a un photographe à bord. Alors on n'est pas encore à l'époque du cinéma, on va y arriver petit à petit avec ses successeurs, dont notamment Paul-Émile Victor. Mais Charcot documente tout ça, c'est très précis, c'est très scientifique, et c'est aussi à la fois très littéraire et très poétique.
Stéphane, vous êtes secrétaire général de la Société des explorateurs français, vous arpentez les terres reculées du globe, et il se trouve que vous êtes reparti sur les traces de Charcot en Antarctique. Vous pouvez donc nous restituer les sensations qui ont pu le traverser lors de cette immersion dans cette nature hostile? Qu'est-ce que vous avez éprouvé?
Cher Stéphane, toute proportion gardée, moi j'y suis allé avec un certain confort, avec des radios télécommunications et une préhension du danger qui est moindre. Mais néanmoins, quand on est dans ces terres polaires, ce qu'on éprouve, c'est ce qu'éprouve Jean-Baptiste Charcot, qui l'écrit. Une attirance irrésistible, la nature est puissante, forte, très très belle, très photogénique, avec des cieux qui peuvent aller d'un bleu infini à un temps menaçant, gris, ciel d'encre. Et vous sentez que cette nature peut être hostile, puisque si vous arrivez des bricoles, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'aéroport, enfin tout est compliqué. Et donc vous sentez...
Il n'y a personne,
donc vous vous sentez, mais un peu, je pense, comme les montagnards ou les en haute montagne ou les marins en pleine mer, vous vous sentez plus vivant que jamais. Et vous éprouvez la vie comme jamais. Et c'est, je pense, ce qui nous attire tous quand on aime les mondes polaires, c'est à la fois cette beauté du monde, mais aussi cette dangerosité de la nature.
Clémentine.
Charcot a tenu des journaux de bord de chacune de ses expéditions et sont des récits qu'il a ensuite publiés. Mais que raconte-t-il des difficultés majeures de son expédition de 1903? Qu'est-ce qui vraiment, pour lui, a été le plus difficile dans tout ça?
Les difficultés majeures, c'est qu'on est à un temps où la marine est à voile avec un moteur qui est assez poussif. Donc pour se frayer un passage entre les morceaux de banquise et les morceaux de montagne de glace qu'on appelle les icebergs, c'est compliqué. Vous avez cette météorologie qui est changeante, avec des vents qui d'un coup peuvent se lever. Vous avez cette houle et vous avez surtout cette présence de hauts fonds. Donc les hauts fonds, ce sont les rochers qui affleurent certaines fois, mais qu'on ne voit pas, qui peuvent être à 2 mètres, à 10 mètres. Et à l'époque, évidemment, on n'a pas de sonar, on n'a pas toute cette cartographie, toute cette connaissance de cet environnement. Et on peut dire qu'il était complètement presque à l'aveugle, complètement à l'inconnu. Donc vous aviez un homme qui était sur le...
À l'avant, non?
À l'avant, au nid de pie, vous aviez des pics, vous essayez de voir un petit peu ce qui s'y passait. Donc ça vous donne toute la dimension héroïque de l'expédition de Jean-Baptiste Charcot.
Avec 19 membres d'équipage, Charcot a passé 13 mois dans les glaces, sous des températures extrêmes, des vents glaciaux. Comment s'organise au fond la vie de l'équipage dans ces conditions extrêmes? Par exemple, comment on se ravitaille? Qu'est-ce qu'on mange?
Stéphane, on est obligé de tout emporter dans les cales, oui. tout emporter dans les soutes, parce qu'évidemment, il y a pas de ravitaillement. Mmh. Donc, on prévoit les choses et on les prévoit quand même de mieux en mieux, parce que là, l'expédition en Arctique, donc à l'autre bout de la planète de Franklin à la fin du 19e, a montré que si on scellait mal les conserves, on pouvait être victime de saturnisme. Donc, on fait vraiment attention à aussi prendre du citron.
Contre le scorbut.
Contre le scorbut. alors, pour James Cook, c'était de la choucroute, mais Jean-Baptiste Charcot a plutôt préféré le citron. Et la vie s'organise vraiment en amont, puisqu'une expédition se prépare scientifiquement, savamment. Et puis sur place, quand on est sur place, on a Jean-Baptiste Charcot qui, comme tous les marins, c'est une vie un peu monacale, c'est une vie militaire. Mmh. On a le lever, on fait ses mesures scientifiques, on sort dès qu'on le peut, si le temps le permet. Et puis moi, j'aime cette anecdote, c'est que le dimanche, c'est jour de repos. Alors, Jean-Baptiste Charcot était quelqu'un de très croyant, très pratiquant, catholique, mais qui aimait à donner à ses hommes des temps de repos. Et Jean-Baptiste Charcot, pour l'anecdote, sortait son gramophone dehors et on écoutait de la musique classique, et vous aviez ces manchots qu'on imagine danser en écoutant du Jean-Sébastien Bach ou du Beethoven.
Lui a passé sa vie littéralement à braver les dangers et jusqu'à la fin, jusqu'à périr dans un naufrage à 70 ans. Qu'est-ce qu'on peut dire de la personnalité de ce gentleman polaire?
Je vais vous faire la confidence, j'ai essayé de trouver des défauts à Jean-Baptiste Charcot.
Oui.
Parce que je me targue d'être spécialiste de beaucoup d'explorateurs, et puis les explorateurs, j'allais dire, ça met en lumière leurs qualités, mais ça met aussi en lumière leurs défauts, le terrain. Et Jean-Baptiste Charcot, j'ai gratté, j'ai enquêté, j'ai voulu savoir. Quand j'ai écrit la biographie de Paul-Émile Victor, zéro défaut, un homme meneur d'hommes, un humaniste, quelqu'un qui avait une grandeur d'âme, quelqu'un qui s'émerveillait des beautés du monde, mais qui ne niait pas aussi ce qui se passait de mal, quelqu'un qui a œuvré pour la science, quelqu'un que les autres explorateurs étrangers ont baptisé le gentleman polaire. Et quand on sait la rivalité entre explorateurs et qu'on sait que ce surnom était vraiment sincère, et ben Jean-Baptiste Charcot réunit toutes les qualités du grand explorateur. C'est dommage qu'on l'apprenne pas assez dans les manuels scolaires ou d'histoire française, puisqu'on a notre James Cook.
Paul-Émile Victor, justement, son disciple, disait qu'il était le patron de l'exploration polaire. Vous êtes d'accord? Il reste quand même une référence en France dans ce domaine.
Une référence qu'il faut pas oublier, parce qu'il est parti explorer pour la science, pour l'humanité. J'utilise beaucoup d'emphase, mais il est parti à un moment où on connaissait pas grand chose de l'Antarctique et où une autre partie des explorateurs y allait pour planter un drapeau au milieu de ce continent le plus hostile, puisqu'on va planter le drapeau au début du 20e siècle et en Antarctique et en Arctique, au pôle Nord et au pôle Sud. Donc, et Jean-Baptiste Charcot est animé d'une quête, que je disais, scientifique, pacifique, et en plus, il le partage, et c'est ça la vocation de l'explorateur, c'est de repousser les limites, mais pas seulement, et de le partager, de diffuser, et de le diffuser notamment et à la communauté scientifique et aussi au grand public.
Mais aujourd'hui, un siècle plus tard, il faudrait tout reprendre, parce que j'imagine qu'avec le réchauffement climatique, Stéphane, toutes ces contrées avec ces glaciers et ces banquises ont reculé.
Complètement. Alors vous avez en Arctique une expédition qui s'appelle Greenlandia avec Vincent Hiller qui remarche, si j'ose dire, dans les pas de Charcot, dans le sillage de Jean-Baptiste Charcot. Et quand on part justement dans ces mondes polaires, nous Français, on est souvent animés de savoir ce qu'ont fait nos glorieux anciens, parce que je pense que le passé éclaire, peut éclairer les ténèbres, en tout cas nous éclaire sur le présent et sur l'avenir. Et ces expéditions de Jean-Baptiste Charcot nous intéressent d'autant plus qu'en plus il a fait des mesures très très précises, donc on est capable d'évaluer et de donner à la science, en tout cas nous les passeurs, et aux scientifiques, cette possibilité de comparer les changements.
Merci beaucoup Stéphane Dugas de nous avoir raconté, comme si on y était, les aventures de Jean-Baptiste Charcot. Je rappelle que votre livre, Une histoire d'exploration, neiges et glaces des pôles à l'Himalaya, est disponible aux éditions Glénat. Et à tous ceux qui voudraient en savoir davantage sur l'incroyable parcours de Jean-Baptiste Charcot, je conseille le documentaire Une aventure polaire de Marc Jampolsky sur arte.tv, qui est disponible, je crois, jusqu'au 31 mai prochain. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Tous les jours, vous le savez, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter, avec Jean-Luc Lemoine, qui vient tout juste de mettre le point d'interrogation final à son quiz qui est à suivre.
Exactement, et aujourd'hui, j'ai un indice musical qui va convoquer quelques souvenirs d'enfance, en tout cas pour moi.
Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey, hey, Vicky, venu du Nord. Hey, hey, Vicky.
Alors d'après vous, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ?
Vicky, non mais
c'est
on
un
a
dessin
pas...
animé avec des Vikings.
Exactement, on va parler Vikings aujourd'hui, mes amis.
Ah, très bien. Bon.
Mais avant cet affrontement, je lui laisse la parole. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous raconte des histoires dont elle seule a le secret.
Dans l'intimité de l'histoire.
Aujourd'hui, Clémentine, on garde les moufles, bien qu'elle n'en portait pas. Vous nous racontez Sonia Inédite, la pavlova de la glace. Mais là, je ne parle pas du dessert. Mais vous disiez
de
que
la
vous...
la danseuse, plutôt.
La danseuse sur glace. Et vous-même, vous êtes...
Il pense qu'à bouffer, celui-là.
Ah, vous me cherchez, là. Oui, j'ai fait du patin à glace, exactement. Oui. J'avais mes petits patins blancs. Et à chaque fois que je faisais bien ma leçon, j'avais le droit à un Caroline. Vous vous souvenez, c'est Caroline, oui. Caroline et ses
chérie,
amis.
Caroline,
voilà,
chérie.
J'adorais ça. Bon, enfin, bref, là, nous parlons d'une plus grande championne. Et là,
oh, plus que vous, non, je doute.
Sonia Aignier, je vous disais tout à l'heure qu'elle a quand même eu un palmarès jamais égalé. Elle a été 10 fois championne du monde, entre 1927 et 1936 et 3 fois médaille d'or olympique aux JO de 28, 32, 36 avec wow. Une belle constante. Elle était née en 1912 et elle n'avait pas 12 ans lorsqu'elle participe à ses premiers JO d'hiver. Ça se passait à Chamonix en 1924. Même pas 12 ans, vous vous rendez compte. Et là, elle représente la Norvège parce qu'elle venait d'y remporter le championnat de patinage. Donc, ces JO de 24 à Chamonix, il y a donc 10 femmes et une enfant d'à peu près 12 ans qui sont en compétition. C'est pas grand monde, hein. Elle fait quelques chutes. Elle s'interrompt, puis comme elle est quand même assez émotive, c'est une gamine, hein, quand elle tombe, elle va au bord de la patinoire, elle va demander des conseils et surtout du réconfort à son entraîneur. Et comme il y a eu quelques abandons dans ces JO, elle finit 8e et dernière de la compétition, mais quand même à presque 12 ans. Et comme sa famille est une des plus riches d'Oslo, parce que son père a fait fortune dans le commerce de la fourrure, eh bien, il peut offrir à Sonia les services des meilleurs profs particuliers. Et l'un de ses profs, justement, sera Tamara Karsavina, mais elle ira aussi parfaire sa technique de ballet à Londres. Et là, l'enfant prodige va éblouir le monde parce que elle imagine, elle conçoit des enchaînements artistiques gracieux, des sauts inédits, et on la compare à un oiseau vivant. Et d'une compétition à l'autre, elle renouvelle constamment ses figures, elle choisit elle-même ses thèmes musicaux, elle les fait enregistrer en sa présence. Le rythme, c'est évidemment quelque chose de très très important, il faut que les sauts surviennent sur un moment musical un petit peu comme ça, un petit peu plus puissant, tout ça devient très très pensé. Voilà, elle devient la reine de la glace, la Pavlova de la glace, en référence évidemment à la célèbre danseuse, et elle devient une gloire internationale. Alors, elle brise la glace, elle la raye surtout, si l'on peut dire, mais c'est pas toujours à bon escient, puisqu'à l'occasion d'une exhibition organisée peu de temps avant les JO de 36 en Allemagne, et voilà, elle accueille Hitler avec un salut nazi. Ça a beaucoup choqué évidemment dans la presse norvégienne, d'autant que non contente d'avoir fait le salut nazi, elle va accepter une invitation à déjeuner avec Hitler dans sa résidence de Berchtesgaden, et la rumeur d'une romance va être lancée. Elle était, il faut bien le dire, exactement le physique idéal de les petites jolies petites femmes blondes un peu fines qu'aimait Hitler, donc la rumeur en tout cas a couru. Mais à peine plus de 20 ans, elle reçoit de très alléchantes propositions d'Américains qui lui proposent de devenir professionnelle. Alors elle fait des grandes déclarations à la presse, vous voyez, les médailles m'ont comblé, j'ai déjà fait le tour de la question, maintenant je veux devenir une bonne ménagère, je vais faire la popote pour mon mari. Et en fait, plutôt qu'un mari, c'est Hollywood qui lui tend les bras. Hollywood, où la Fox de Dari Zanuck lui fait un gros contrat. Alors là, elle devient blond platine, parce que c'est la couleur à la mode. Elle tourne 11 films en 12 ans. Et là, elle rentre dans le panthéon des gloires du film musical. Elle est même élue en 39. Sonia Aignier, pourtant, je ne sais pas si ça vous dit vraiment grand chose. Eh bien, sachez qu'en 39, elle est élue l'actrice la plus populaire derrière Clark Gable et Shirley Temple. C'est de là, on les connaît.
Oui,
ben, Sonia Aignier, moins, mais elle a fait une dizaine de films dans ces années-là. Et elle qui gère d'ailleurs très, très bien sa
donc
carrière.
Donc, elle vit à Hollywood, en fait.
Elle vit à Hollywood. Elle se produit dans des revues sur glace Holiday on Ice. Et elle crée des produits dérivés, elle crée des écoles de patinage. Alors, par contre, sur le plan personnel, c'est moins réussi. Elle a quand même eu des aventures avec des gens connus, Tyrone Power, John Kennedy, Clark Gable, quelques mariages ratés. Et puis des illusions perdues surtout. Puis là, c'est la descente aux enfers. Parce qu'elle elle a sombré dans l'alcool. Elle se produit plus que sur des petites patinoires.
À force de boire de l'eau glacée.
C'est ça. Elle préférait, ça réchauffe davantage. Qu'est-ce que vous voulez? Puis là, l'une des dernières prestations, il arrive ce qui devait arriver à force de boire. C'est un spectacle qu'elle donne en Amérique du Sud. Et elle tombe, elle s'étale piteusement sur la patinoire. Là. Donc, on est en 56, elle met un terme à sa carrière. Là, elle se marie avec le richissime armateur norvégien Nils Onstad et elle va occuper ses dernières années avec lui à constituer une importante collection de peintures dont ils feront don à une fondation qui porte leur nom à tous les deux. Et elle est morte dans des conditions assez spectaculaires, Sonia Aigné, parce que c'était le 12 octobre 1969, elle avait 57 ans, elle souffrait d'une leucémie et elle est morte en plein vol dans un vol Paris-Oslo. Elle est morte...
Ah oui, c'était pas une image, en plein vol, c'est...
Vraiment... Ah non, en plein vol, Elle est morte près des étoiles pendant ce... Pendant
oui, c'est
ce...
compliqué. Il vaut mieux pas mourir dans un avion. Vous savez, après, c'est compliqué. Pour les passagers...
Ouais,
pour,
parce qu'il y a une enquête de police. Oui, j'ai vu ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir pris un vol il y a deux ou trois ans pour aller en Amérique latine et il y a eu un monsieur qui est mort.
Et là, il faut atterrir tout de suite, c'est ça?
On a atterri normalement, mais après, c'est pour la famille que c'est compliqué parce qu'il y a une enquête de police. Ouais. C'est incroyable. Mais ça se produit plus souvent qu'on ne le croit, je pense. Ça peut être aussi lié à la peur de l'avion, d'ailleurs.
Ah, peut-être on fait semblant que la personne n'est pas morte.
On dit rien. Évidemment, on dit rien.
Et comment vous faites pour faire semblant que la personne n'est pas morte? Vous mettez le bras à l'intérieur, vous faites...
Non, pas du tout, Jean-Luc, mais on l'appuie contre le hublot en faisant croire qu'elle dort.
Allez, on est arrivé.
C'est ça.
Faut descendre, Sonia, maintenant. Merci beaucoup, Clémentine. C'est pas...
Quelle horreur.
Ce qu'on retiendra de toute sa vie, c'est le salut à Hitler et la fin dans un avion Paris-Oslo.
Et les patins blancs.
Voilà. Merci beaucoup, Clémentine. Maintenant, c'est le moment de l'émission. Vous le savez, chers auditeurs, je ne contrôle plus rien. C'est Jean-Luc qui prend la main pour le quiz Born to be Alive. Et je ne le regrette jamais.
Oh, c'est gentil de dire que vous ne le regrettez jamais.
Oui, je ne le regrette pas parce que quand je vous entends parler d'histoire, ça prouve que finalement, on n'est pas si nul que ça, Clémentine et moi.
Oh, je sens une pointe d'ironie. Hein? Mais qu'importe. Allez, jouons! Vous aviez la parole, je vous la laisse. Stéphane, question pour vous. Envie de commencer ce quiz par une antonomase, à savoir un nom propre qui est devenu un nom commun. Envie d'évoquer aussi Zoïl. Grammairien, grec, orateur, né en 400 avant Jésus-Christ, il a donc donné son nom Zoïl au mot Zoïl. Mais c'est quoi un Zoïl? Un mec aigri qui critique? Un mec qui se fout de tout? Ou un mec aigri qui critique et qui se fout de tout?
Zoïl.
Un Zoïl. Bien utile si vous voulez jouer au Scrabble.
Z-O-I-L-E. Je serais tenté de dire la totale. La galette complète.
Comme le beurre au fromage.
Voilà, c'est ça. C'est le type qui se permet de critiquer et qui est aigri et critique tout.
Vous partez là-dessus?
Ouais.
Ok, on vérifie.
Vous avez perdu.
C'est un mec aigri qui critique. Zoïl a écrit 9 livres rien que pour dire du mal de Homère et avoir tenté de le censurer. Voilà, ça vient de là, Zoïl, que vous utilisez.
Je ne le connaissais pas.
Eh bien,
et
moi
je
n'utilisais
pas ce nom. Vous utilisiez
Non. Pourtant, j'en connais des Zoïl. Hein.
Voilà. Des gens aigris qui critiquent tout.
Mais c'est ça qui est formidable.
Vous avez dit non.
Va donc, espèce de Zoïl.
C'est ça.
Là, vous dites ça, Stéphane, vous trouvez un petit peu seul quand
oui,
même.
Oui, parce que personne.
Mais c'est un bon moyen d'insulter les gens sans en avoir l'air.
Ah, mais cela dit, ça c'est vrai. Moi, je connais comme ça des expressions latines. Vous pouvez les sortir à tout bout de champ. Personne ne les connaît. C'est bien.
C'est pour vous. C'est pour vous. Une question pour vous d'ailleurs, Clémentine, maintenant. Du 8e siècle au 11e siècle en Scandinavie, c'était la période dite de l'âge des Vikings. Voici ma question. Dans la culture viking, si on meurt normalement et qu'on a eu une vie normale, on va quand même en enfer. Vrai ou faux?
Non, dans la culture viking, il faut mourir les armes à la main. C'est la seule façon d'aller au Valhalla. Sinon, si un guerrier meurt autrement que les armes en main, en effet, il ne va pas au Valhalla. Et c'est ça la punition suprême.
Mais est-ce que vous avez compris ma question ?
Donc, on peut avoir fait n'importe quoi, on peut avoir été quelqu'un de bien.
Dans la culture viking, si on meurt normalement et qu'on a une vie normale, on va quand même en enfer.
Oui, vrai ou faux ? C'est vrai.
C'est vrai ?
C'est vrai, puisque si on a une vie normale et... on va pas où, l'objectif c'est le Valhalla. Donc si on n'a rien fait de spécial dans sa vie, on n'y va pas. Donc on est cramé quoi.
On vérifie ça.
Vous avez gagné.
Bravo, elle est trop forte.
Ah, elle est trop forte. Vous faites notre admiration.
En viking. J'adore c'est les ça. Vikings.
Mais en fait, que vous soyez enfant, vieillard, tout le monde va en enfer, sauf, vous l'avez dit, si vous avez eu une mort vraiment héroïque. L'enfer est tenu par une femme dont la moitié du corps est un cadavre putréfié.
Oh là.
Et chez les Vikings, l'enfer est froid. Alors Stéphane,
oui, c'est moi.
Stéphane, c'est le moment où jamais d'égaliser. On a souvent parlé dans ce quiz des os humains. Des os humains. Vous y connaissez en zoo ?
Les os OS ou EAU ?
Z2O.
Z2O.
Ah, des os.
Des os.
Z-O-O-S. Alors, là où on expose des gens.
Des os humains.
Pas que. Il y a aussi des gens qui font des cris d'animaux. Est-ce que vous voulez en...
Coin, coin, kikiriki, kikiriki.
Ça, c'était l'ancienne... C'est un temps révolu.
C'est un temps... Voilà, je parle des os humains.
Oui.
La France...
Zoo.
La France a même un certain savoir-faire dans ce domaine. Voici ma question. Le dernier zoo humain français a fermé en 1994, et ce, à cause du non-respect du droit du travail. Vrai ou faux ?
Oh non, je crois qu'on n'expose plus.
Alors,
de...
la dernière exposition universelle où il y a eu un zoo humain, c'était 37.
37, oui.
Me semble-t-il. C'était une exposition coloniale.
Oui.
Mais attention, Stéphane, parce qu'il peut tout à fait y avoir, quelque part dans l'Hexagone ou ailleurs,
l'équivalent de zoo.
Une sorte de, vous voyez, un village, un village
ah
modèle.
Ah, non, ça, c'est pas un zoo.
Ah,
ça.
Bah alors, c'est pas un zoo. Oui, mais vous connaissez bien notre poseur de questions.
Voilà.
Ça doit être quelque chose de ce genre-là.
Je vais être gentil. On est plus proche du village que du zoo.
Oui, bien sûr, ça existe toujours.
Bien sûr, parce que j'étais faire un tournage dans un village gaulois.
Oui, mais là
on expose les gens. Où les gens sont exposés en tenue gauloise.
Oui, mais là, ce sont des figurants, oui.
Oui, mais 94, moi je suis sûr.
1994.
Il devait y avoir quelque chose comme ça. C'est
bon, je vais dire oui. Parce que je sens que ça vous fait plaisir.
Oh non, ça ne me fait pas plaisir.
Si, je le sens, je le sens.
Et l'histoire n'est pas joyeuse.
Vous savez. Gagné !
Je vous raconte l'histoire du bien nommé village de Bamboula, sponsorisé par les biscuits du même nom. Il est inauguré en avril 1994, puis ferme la même année. Et la fermeture a lieu parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait confisqué leur passeport aux figurants, que les enfants étaient séparés de leurs parents, et que les Ivoiriens touchaient un tiers de SMIC et qu'ils étaient soignés par des vétérinaires.
C'est pas vrai.
Une horreur totale.
Ah oui.
On va enchaîner, hein. On va enchaîner.
Ouais, là, c'est franchement, mais c'est pas en France.
Ah bah si. La question, c'était en France et c'était sponsorisé par.
Oui, mais
des
où
biscuits.
Dans quel village dans
À
quel...
Tirongardé.
Non. J'aurais su. J'ai gardé les passeports, mais j'aurais su. Non, dites-moi.
Non, j'ai pas l'adresse exacte.
Mais en France continentale, métropolitaine.
Oui, oui. Exactement.
Imaginez.
À Tirongardé sont des esclaves qui moulent des savons chimères cycladiques dans la cave.
Pas dans la cave, ils ont vu sur le jardin. Oui, dites-moi.
C'était dans la région nantaise.
D'accord, merci beaucoup.
C'est honteux cette histoire. C'est
scandaleux.
Une question pour Clémentine qui peut lui permettre de remporter ce quiz. Alors, je ne sais pas si petite Clémentine, une souris est venue sous votre oreiller pour déposer une pièce en repartant avec une de vos dents.
Absolument.
Oui, quoi qu'il en soit... Cette coutume vient de la fin de l'époque Edo au Japon. Vrai ou faux ?
Mais vraiment. Ils nous auront tout fait avec la période Edo.
Ah bah oui.
La petite souris. Non, la petite souris, ça vient pas du Japon.
Et pourquoi ça ?
Mais comment elle serait venue ?
C'est ça.
En
bateau, vous imaginez le trajet,
voilà.
Le mérite.
Donc en fait, c'est quoi l'histoire ? C'est qu'en fait, alors là, c'est une pratique.
Coutume. On parle d'une
voilà,
coutume.
C'est une pratique japonaise qui consistait à mettre une pièce à la place de la dent et qui est parvenue jusqu'à nous par les voyageurs explorateurs japonais. C'est arrivé à Nantes et on s'est dit ah ouais c'est sympa, on va faire pareil avec nos non.
Et pourquoi pas ? Halloween, c'est bienvenu des Américains.
Oui, c'est parce qu'on a fait de mieux. Alors moi je dis la petite souris, c'est français, monsieur.
Vous avez
perdu.
Vous avez perdu puisque vous avez dit que c'était français. Alors c'est pas japonais non plus, mais vous avez voulu faire la maline, hein. Vous auriez dit juste faux. Bah, j'aurais accepté la réponse, ouais. Mais vous avez voulu faire la maline une nouvelle fois. Vous avez dit que c'était français. Non, ça vient d'un conte anglais publié en 1927 qui s'appelait.
Oh oui, dis-le, d'un air entendu. Ah, bien sûr.
Ça s'appelait The Tooth Fairy.
On m'a raconté l'histoire de l'auteur de ce conte.
La fée des dents. Une fée qui vient récupérer les dents de lait. Dans la version française, dans les années 50, la fée a été remplacée par une souris.
Fairy Queen. Non, bah.
Non, Tooth Fairy. La question qui va vous départager maintenant. Je ne vous donne pas le choix. Retournons dans le village de Bamboula. Nous sommes en 1991, les travaux commencent. 3 ans plus tard, c'est l'inauguration. Le premier ministre ivoirien est là, avec son ministre de l'Environnement et celui du Tourisme, ainsi que de nombreux élus français locaux. Quelle est la devise de ce parc ? Tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un safari au Kenya. Y a bon l'excursion ? Ou, n'allez plus à eux, ils viennent à nous.
Un.
Écoutez, on va aller sur la rapidité. Et la rapidité...
C'est Clémentine.
Ouais, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un safari au Kenya. Le jour de l'inauguration, en une de West France, une Africaine au sein nu fait de la publicité pour le village africain de Port-Saint-Père.
C'est hallucinant de penser qu'en 94, quand même pas si loin, et qu'un parc de ce type pouvait s'appeler Bamboula. Ce
qui est hallucinant.
Mais surtout, c'était il n'y a pas si longtemps et on n'en savait rien.
Ouais, on a préféré oublier, je pense. On avait bien honte.
Ah bon, merci, merci bien aise de cette victoire.
Bravo,
merci
Clémentine,
au revoir et à demain.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez, Olivier Pouls et nos personnages du jour qui ont brisé la glace. Après le Polar Gentleman, Jean-Baptiste Charcot, je vous raconte Edward Smith, le capitaine du Titanic qui a brisé la glace. Mais le mythique paquebot aussi, hélas, de nombreuses vies. Et vous Jean-Luc, vous allez nous raconter une star hollywoodienne qui a brisé la glace, elle aussi, sans passer par l'épaule.
Ah non, il n'est pas question d'épaule, mais plutôt d'une autre partie du corps, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous parle de Sharon Stone, la comédienne de Basic Instinct, qui a brisé la glace avec un pic, et pas uniquement un pic.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
C'était dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. Une date restée dans l'histoire, celle d'une tragédie, restée gravée dans les mémoires, le naufrage du Titanic. Je vous raconte maintenant le commandant star du paquebot, marin britannique à la carrière exemplaire, qui pourtant échoua à éviter la collision de son navire avec un iceberg, Edward John Smith. Il faut imaginer le port de New York au tournant du 19e siècle. Un complexe déjà gigantesque accueillant le long de ses centaines de docks des bateaux en provenance du monde entier. En ce 16 décembre 1896, fait exceptionnel, aucun bateau, ou presque, ne navigue sur les eaux d'ordinaire si fréquentées de la baie de New York. En effet, depuis la veille, une tempête de neige épouvantable fait rage, balayant les côtes de vent, soufflant à presque 70 km/h. Un homme, cependant, ne semble pas impressionné. Le commandant du RMS Majestic, superbe paquebot de manufacture nord-irlandaise, a donné l'ordre que l'on prépare son navire au départ. Le fleuron de la White Star Line, prestigieuse compagnie britannique, est attendu dans quelques jours à Liverpool et ce n'est pas une tempête qui va empêcher le capitaine Edward John Smith de mener ce colosse d'acier long de 180 mètres et pesant près de 10 000 tonnes à bon port. Il faut dire qu'à 46 ans, Edward Smith, surnommé Ted dans son enfance, comptabilise déjà presque 30 ans d'expérience en mer. Entré par la petite porte dans la marine en tant que mousse à 17 ans, cet Anglais issu d'un milieu très modeste a patiemment et à la sueur de son front gravi les échelons jusqu'à obtenir son brevet de capitaine à l'âge de 25 ans. La mer donc, il l'a sillonné de long en large et à maintes reprises, essuyé ses colères et surtout dans l'Atlantique Nord. Et celle-ci ne l'effraie pas plus qu'une autre. Alors, en cette fin de journée dantesque, Edward Smith a pris sa décision. Le Majestic va lever l'ancre pour s'élancer dans le chaos des flots déchaînés de l'Atlantique. Durant de longs jours, tandis que le bateau essuie des bourrasques féroces et subit l'assaut répété de vagues gigantesques, les presque 1500 passagers du paquebot, en proie au mal de mer, ont la stricte consigne de rester à l'intérieur. Sur la passerelle, le capitaine tient la barre quasi jour et nuit. Et heureusement, car un autre danger plus sournois encore s'annonce bientôt à l'horizon, une silhouette tabulaire gigantesque et immaculée émergeant solitaire au milieu de l'océan. Edward Smith connaît bien le péril que représente un iceberg. Il sait qu'un roc de glace plus colossal encore se cache sous la surface et que la coque de son navire n'y résisterait pas. Barre à tribord, ou à bâbord d'ailleurs, l'histoire ne le dit pas. La manœuvre d'évitement est faite à temps. Le Majestic atteint Liverpool indemne, 5 jours plus tard. Edward Smith, que l'on surnomme désormais le roi des tempêtes, ne se doute pas un instant qu'un épisode similaire mais funeste cette fois fera tragiquement entrer son nom dans les annales de l'histoire 16 ans plus tard. Edward Smith, que l'on surnomme désormais le... Ah, ça, je viens de le dire. Je voulais vérifier que vous écoutiez. Et j'ai bien vu que vous dormiez. Ça m'a surpris. Mais pour l'heure, le roi des tempêtes ne craint rien ni personne et on le gratifie même d'un autre sobriquet, le commandant des millionnaires. Oui, car bientôt, les passagers les plus prestigieux de la White Star Line ne jurent que par ce capitaine au physique de l'emploi. Son visage plein de bonhomie, sa barbe soigneusement taillée, son tempérament calme et sympathique, dont émane une autorité naturelle, inspire confiance à tous. Tant et si bien d'ailleurs qu'à l'âge de 54 ans, Smith est au summum de sa gloire. La White Star Line en fait son commodore, soit son capitaine star, celui qui a l'honneur et la charge de commander le navire le plus imposant de la flotte. En cette année 1904, la compagnie vient tout juste de construire le plus gros paquebot du monde, justement, tout frais sorti des chantiers Harland & Wolff à Belfast, le Baltic, troisième de la série des géants des mers appelés les Big Four, mesure 222 mètres de long, possède 5 ponts et peut accueillir jusqu'à 2720 passagers, un mastodonte. L'âge d'or des paquebots bat son plein. La White Star Line construit des colosses à la chaîne et achève 3 ans plus tard un navire jumeau, l'Adriatique, confié celui-ci encore aux soins du Commodore Suisse. Et la course au plus grand paquebot se poursuit. Une série de paquebots plus titanesques et plus luxueuses encore est lancée par la compagnie. C'est ainsi qu'en 1911, Smith prend le commandement du RMS Olympique, rival du superbe Mauretania de la Cunard Line, 269 mètres de long, 10 ponts, 52 000 tonnes. Les dimensions de l'Olympique sont inédites, mais pas pour longtemps. Elles sont un an plus tard égalées par un navire jumeau, quasi identique et tout aussi luxueux. Un géant décoré d'un mobilier somptueux et réputé insubmersible, le Titanic. Le 10 avril, vers 7 heures du matin, Edward John Smith dit au revoir pour la dernière fois à sa femme et à sa fille dans sa maison de Southampton. Un énième voyage inaugural l'attend ce jour-là, très médiatique encore. Bon, il a l'habitude. Le temps est calme, à la mi-journée, quand des docks, le dernier né de la White Star Line actionne ses sifflets. Les moteurs sont mis en marche, le bateau s'écarte lentement du quai, tandis que les passagers, massés le long des bastingages, font de grands signes de revoir à leurs proches restés sur le quai. 4 jours plus tard, dans la nuit du 14 au 15 avril, et bien que de nombreux messages aient prévenu l'équipage de la présence de blocs de glace sur sa route, le Titanic ne parvient pas à éviter la collision avec un iceberg. Absent de la passerelle à ce moment-là, Smith est alerté par le tremblement qui secoue le navire tout entier. Les dégâts sont graves, irréparablement graves. Thomas Andrews, l'architecte naval présent à bord, ne donne au bateau qu'une heure et demie avant qu'il ne coule. Ce n'est pas assez pour remplir tous les canaux de sauvetage à capacité. Et d'ailleurs, Smith en a parfaitement conscience. Ces derniers ne sont pas assez nombreux pour accueillir tous les passagers, la moitié à peine. Pour ne pas créer de mouvement de panique, Edward Smith évite soigneusement d'alerter les passagers que le navire va sombrer. Tout juste donne-t-il l'ordre qu'ils embarquent au plus vite dans des canots de sauvetage, par précaution seulement, les femmes et les enfants d'abord. Dans le chaos des quelques 2 heures et demie qu'il reste en fait au bateau, il est aperçu à plusieurs reprises donnant des ordres et supervisant l'évacuation, incitant son équipage à rester digne, à se comporter précisément en britannique, selon les mots qu'on lui prête. Edward Smith n'évacue pas. Dans la plus pure tradition maritime, il n'a nulle intention de quitter le navire alors que des passagers sont encore à bord. Et il coule donc avec lui. La version la plus répandue, sur ses derniers instants, le place sur la passerelle au moment de sombrer, digne et calme derrière la barre, en bon britannique donc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler d'Edward Smith, nous sommes avec celui que l'on surnomme Monsieur Titanic. Bonjour, Paul-Henri Nargelet.
Bonjour.
Paul-Henri Nargelet, vous êtes le spécialiste français du Titanic et vous racontez 35 années d'exploration sous-marine dans un livre dans les profondeurs du Titanic. C'est le 25 juillet 1987, à bord d'un petit sous-marin et sous 3843 mètres de profondeur, que vous avez aperçu pour la première fois la proue de l'épave du plus célèbre des paquebots. Est-ce que vous vous souvenez de l'émotion qui vous a saisi à ce moment-là ?
Ah, certainement, oui, je ne suis pas prêt de l'oublier. Oui, ça a été une grande émotion. J'étais avec Guy Charon et Max Dubois quand on est arrivé sur l'épave du Titanic. Et là, ça a été une émotion. C'était un mélange d'ailleurs de joie et de tristesse. De joie parce qu'enfin on y est arrivé. On attendait ça depuis à peu près plus d'un an d'ailleurs. Et également de tristesse parce qu'on a pensé à la catastrophe qui s'était passée et qu'on était devant ce navire.
Jean-Luc,
pourquoi en fait il a fallu tant de temps pour retrouver l'épave du Titanic, près de 75 ans si mes calculs sont bons?
Oui, alors il a fallu longtemps parce qu'on n'avait pas les moyens, si vous voulez, de trouver quelque chose par cette profondeur-là. Il a fallu l'invention de sonar qui pouvait descendre près du fond, et à ce moment-là, ça devenait possible de détecter quelque chose. Sinon, de la surface, on n'y arrivait pas. Donc, c'est les gros progrès qui ont été faits en océanographie et en technologie et qui ont permis, finalement, d'arriver à trouver cette épave.
Depuis 35 ans, vous avez donc effectué plusieurs expéditions. La dernière date de l'été dernier. Ces plongées ont permis d'apporter de nouvelles informations sur les circonstances du naufrage, et si oui, lesquelles ?
Tout à fait, si vous voulez, au cours des expéditions qu'on a faites, puisque moi j'ai participé à 9 expéditions pour l'instant, et on a pu faire ce que je vais appeler une espèce de radiographie de la coque. Donc on a détecté sur l'avant tribord du bateau des brèches, à peu près 5-6 brèches qui font entre 1 mètre et 4 mètres de long. Au total, ça représente à peu près un trou qui fait 1 mètre carré. Et là, si vous voulez, avec un trou qui fait 1 mètre carré, eh bien, les choses deviennent logiques, c'est-à-dire que la quantité d'eau qui rentre par minute, etc., on sait qu'au bout de 2 heures, la moitié du bateau est remplie et forcément, il va couler. Alors que la commission d'enquête de l'époque avait annoncé qu'il y avait une brèche qui faisait 100 mètres de long. Et avec une brèche de 100 mètres de long, le bateau aurait coulé en 10 minutes. Donc il y avait quelque chose qu'il fallait expliquer. Et on pense qu'on a trouvé cette explication.
Je relatais le parcours d'Edward Smith, le capitaine du Titanic, qui pour vous a commis certaines erreurs le soir du naufrage. Lesquelles ? Parce que, évidemment, ça a une incidence. On aurait pu sauver plus de passagers.
Oui, alors il y a déjà... Bon, il n'a pas ralenti alors que tous les autres bateaux dans la région, non seulement avaient ralenti, mais même beaucoup se sont carrément arrêtés parce qu'il y avait c'était une année exceptionnelle, il y avait énormément non seulement de glace, mais également énormément d'iceberg. Bon, lui, il n'a pas ralenti parce que bon, il avait une expérience énorme, il a simplement dévié un petit peu sa route en allant un petit peu plus sud. La première chose, dans la journée, il y avait un exercice de mise à l'eau des embarcations qui était prévu, il l'a annulé parce que c'était dimanche et que la messe était prioritaire. On ne voit pas comment il a pu. Il ne le savait pas avant, ça paraît quand même un peu bizarre. Et il a en plus. Il s'occupait, lui, particulièrement d'un des deux côtés du bateau pour la mise à l'eau des embarcations. Et il a. Non seulement il a dit les femmes et les enfants d'abord, mais les femmes et les enfants seulement. Donc. Il y a des canots de sauvetage qui sont partis aux trois quarts vides. Il y en avait un dans lequel il y avait 16 personnes au lieu de 64. Donc il y aurait eu beaucoup plus de personnes qui auraient pu... si on avait rempli, si vous voulez, tous les canots de sauvetage au maximum, on aurait presque inversé les chiffres. On serait passé de 700 de 1500 survivants, et alors que c'est le contraire qui s'est passé. Quoi.
Olivier ?
Oui, depuis 35 ans, vous vous efforcez de remonter à la surface des objets. Le tout premier était une assiette en métal. Et depuis, environ 5800 objets quand même ont refait surface. Alors est-ce que selon vous, ils constituent la mémoire de ces fameux 1500 personnes disparues la nuit de la catastrophe ?
Tout à fait, c'est même la mémoire historique du bateau, quoi, puisque finalement, c'est la seule chose qu'on peut effectivement voir et que le public peut voir. Et c'était un peu notre but, si vous voulez, c'est de... pour les générations futures, que les gens puissent voir cette histoire à travers les objets, donc des objets qui appartenaient aux passagers, des objets qui appartenaient au bateau, des des objets qui appartenaient au personnel qui était à bord, de la cuisine, etc., de façon à constituer plusieurs collections d'objets que l'on montre au public.
Il se passe la chose suivante, Paul-Henri Nargelet, c'est que depuis que l'épave a été localisée, elle se détériore inexorablement. Pendant combien de temps la carcasse du Titanic reposera-t-elle encore dans les profondeurs de l'Atlantique, d'après vous?
Alors, bon, on sait que l'avenir d'une épave, c'est de disparaître. Hein, donc, c'est normal, le processus qui est entamé de détérioration de l'épave est inexorable. Donc, mais il y en a encore pour, à mon avis, peut-être 200 ou 300 ans, parce que même si bon, il y a du courant au fond, donc le courant détériore l'épave, il y a de l'oxygène, moins qu'en surface, mais il y en a quand même, donc il y a de l'oxydation, il y a surtout des bactéries qui utilisent le métal pour leur métabolisme, hein, donc qui mangent l'épave en quelque sorte, même si les scientifiques ont calculé qu'il y avait à peu près 400 à 500 kilos de métal par jour qui disparaissaient, mais il faut se rappeler que le bateau faisait 50 000 tonnes, c'est-à-dire 50 millions de kilos, donc il y en a encore pour des années et des années avant que tout disparaisse, parce qu'il y a des très grosses pièces comme les moteurs, et bien avant qu'elles disparaissent, il faudra 300 ans, 400 ans, et non pas 20 ans, comme très souvent je l'entends, parce que ça fait 35 ans que j'entends que dans 20 ans, l'épave aura disparu, quoi.
Moi, j'avais une question plus triviale pour finir. Combien faut-il payer pour explorer l'épave du Titanic?
Alors actuellement, bon, comme ce sont des expéditions qui coûtent extrêmement cher, on ne va faire que la visite, on fait des inspections de l'épave, si vous voulez. Donc, eh bien, chaque passager du sous-marin doit payer 250 000 dollars. Alors, ce qui sont des sommes énormes, mais le coût d'une expédition est énorme parce qu'il faut louer un bateau pendant 2 mois, il faut le sous-marin, tous les équipages du bateau, du sous-marin, etc. Et tout. Et ce sont des expéditions qui coûtent 5-6 millions de dollars à peu près. Donc, il faut les financer. Pour les financer, il faut
prévoir combien de temps pour le faire?
Parce qu'il a un tournage, Stéphane.
Pour un passager, si vous voulez, il faut qu'il vienne pendant une semaine sur le bateau. Donc, pendant cette semaine, il va participer à toute la vie du bateau, à tout ce qui se passe sur le bateau, mais il va faire une plongée qui dure au fond à peu près 4 heures, mais la plongée au total dure entre 9 heures et 10 heures à peu près.
Ça fait cher. L'heure de plongée.
Oui, même la seconde.
Oui. mais est-ce que c'est comme ça que vous financez aussi un petit peu les expéditions?
Tout à fait, c'est un des moyens, si vous voulez, parce que bon, il y a parfois d'autres financements avec des chaînes de télévision qui veulent faire des documentaires, mais enfin, c'est pas des sommes colossales. Il y a des sponsors qui ont investi aussi, puisqu'il y a quand même une certaine rentabilité lors des expositions où le public vient. Bon, il y a eu un gros problème pendant la période du Covid, bien évidemment, mais là, les expositions ont repris. Donc, si vous voulez, il faut arriver à trouver des gens qui sont suffisamment intéressés par le Titanic pour financer une partie de l'opération. Et en additionnant tout ça, on finit par avoir un budget suffisant pour faire une expédition.
Merci beaucoup, Paul-Henri Nargelet, nous avoir emmenés dans les profondeurs du Titanic. C'est d'ailleurs le titre de votre livre, paru aux éditions HarperCollins. Merci beaucoup.
Merci à vous aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Stéphane Bern.
Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoine, David Cassel-Lopez et Olivier Poul, sont réunis les personnages qui ont brisé la glace. Après Jean-Baptiste Charcot et Edouard Smith, c'est le moment du pic d'audience, puisque vous nous racontez, Jean-Luc, celle qui a brisé la glace au cinéma, Sharon Stone, avec un pic justement.
Exactement. Alors je vous apprends rien, quand on veut briser la glace, généralement, on dit ou on fait quelque chose qui va détendre l'atmosphère. Par exemple ici, Stéphane, oui, en arrivant dans le studio, adore jouer au jeu du tire-mon-doigt.
C'est quoi?
Non. Alors je vous cache pas qu'après 5 mois d'émission, on a upgradé le système de ventilation dans le studio. Mais au moins ça a le mérite de détendre un peu tout le monde. Sharon Stone, elle, quand elle veut briser la glace, c'est avec un pic. Et elle poignarde aussi bien des glaçons pour servir un whisky qu'un homme nu, attaché à un lit, ou des règles sociétales sexistes et absurdes. Pour la génération Z, qui n'a pas la ref et qui se demande pourquoi cette femme n'est pas en prison, ou même qui est cette femme tout court, je faisais allusion au film Basic Instinct qui a propulsé Sharon Stone, l'actrice, au sommet de la fame internationale. Basic Instinct, c'est iconique. C'est un thriller érotique de 1992 avec Michael Douglas, dans le rôle d'un détective un peu tordu, et notre Sharon dans celui d'une inoubliable femme fatale et accessoirement serial killer. Pour la génération Z qui se demande ce qu'est l'année 1992, je vous invite à aller vous faire voir. Bon, et pour s'en débarrasser maintenant, parce que ça fait 30 ans, oui, dans l'un des moments les plus mémorables du film, le personnage joué par Sharon se fait interroger au poste de police, et oui, elle est vêtue d'une robe blanche un peu courte, oui, elle fume une cigarette, et oui, elle croise et décroise ses jambes pour révéler qu'elle ne porte aucun sous-vêtement. Et oui, cette scène a très probablement contribué au réchauffement climatique et à la fonte des glaces. Voilà. Mais Sharon Stone, c'est bien plus qu'un petit fendu filmé en 35 mm. C'est une star, une légende. C'est une femme engagée, une activiste, et à 64 ans, elle porte aussi bien le bikini que ses engagements et sa vérité de femme. Ah tiens, sans m'en rendre compte, j'ai fait une phrase à la Nico Saliegas. Sharon, bouleversant, tel un moment suspendu dans les hauteurs de la Cité des Anges, la grâce d'une actrice à contre-courant de l'équilibre de son univers, c'est un reportage inédit pour 50 minutes dedans. Bon, et en vrai, il y a beaucoup à dire sur Sharon. Hein. Alors, on va être efficace, comme pendant un premier date. On va briser la glace avec des fun facts, des petits moments de son histoire en faisant fi, possiblement, de toute logique chronologique. Pourquoi ? Parce que ça m'arrange. Sharon a un point commun avec la femme du général de Gaulle.
Dit comme ça, ça surprend.
Stéphane me souffle l'amour de la Nuagus. Mais non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est.
J'ai rien soufflé.
Si. Son deuxième prénom, c'est Yvonne.
Ah oui ?
Sharon Yvonne Stone. Elle est née le 10 mars 1958 à Meadville, en Pennsylvanie. Elle est fille d'un ouvrier d'usine et d'une comptable. C'est une très 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 bonne élève à l'école, presque une surdouée. À 5 ans, elle est déjà en CE1. Et à 15 ans, elle n'est pas loin de découvrir le vaccin contre l'hépatite B, en mélangeant des cornflakes à un yaourt au bifidus actif. Mais elle préfère l'université où elle étudie les beaux-arts et l'écriture créative. D'ailleurs, à ce jour, elle reste une des actrices d'Hollywood avec le QI le plus élevé, 154 au compteur, ce qui ne l'a pas empêché de jouer dans Catwoman et Basic Instinct 2. Ce qui pose cette question... Les impôts seraient-ils plus forts que les neurones ? En parallèle à ses études, elle participe à des concours de beauté parce que, bah, vous allez être étonné, elle est très belle. Elle remporte celui de Miss Pennsylvanie et décide, après avoir obtenu son diplôme, de poursuivre une carrière de mannequin à New York. Puis viennent les premiers rôles au cinéma. 1981, Stardust Memories de Woody Allen, où elle joue le rôle de la jolie fille dans le train. Oui, même pas de prénom, elle était juste jolie. Puis des lignes de dialogue avec un sous-Indiana Jones dans les deux épisodes d'Alan Quatermain, campé par Richard Chamberlain, alias Ralph de Bricassa dans Les oiseaux se cachent pour mourir. Seuls les vrais savent. Puis Police Academy 4, qui présentait l'avantage d'être très compréhensible même si t'avais pas vu les trois premiers. Beaucoup ont eu l'impression de la découvrir du jour au lendemain avec Basic Instinct, mais c'était déjà son 18e film. Elle le dit elle-même. Pendant des années, je me suis fait allumer en enchaînant un tas de films de merde et de télévision médiocre, à l'époque où la télévision n'était pas reine. J'avais 32 ans quand j'ai obtenu ce rôle. Je savais que je l'obtiendrais. Je savais que c'était ma dernière chance. Je vieillissais dans un business dans lequel je ne m'étais pas encore vraiment lancé. Grâce à son pic à glace, sa carrière prend un nouvel essor. Total Recall, Sliver, le génial Casino de Martin Scorsese qui lui vaut une nomination aux Oscars, Mort au vif ou encore le film de science-fiction Sphère. Sharon domine les sorties ciné dans les années 90 et est alors aussi incontournable qu'un Furby ou qu'une montre flic-flac. Malheureusement, le début de mine n'est pas aussi joyeux. D'une part, parce qu'on est obligé d'entendre non-stop Les Rois du Monde de la comédie musicale Roméo et Juliette. Et ceci explique-t-il cela ? Sharon nous fait un AVC en 2001. Elle a 43 ans, son pronostic vital est sérieusement engagé et il lui faudra près de 2 ans pour réapprendre à marcher et à parler. Et comme si ça ne suffisait pas, elle affronte aussi une longue traversée du désert. À Hollywood, on n'aime pas trop les actrices qui font des AVC. C'est pas très glam et puis ça risque de baver sur le tapis rouge. Donc pas de taf, en plein divorce, elle en vient même à hypothéquer sa maison. Heureusement, son pote Bernard Arnault est là pour lui faire signer un contrat pub avec Dior et lui évite ainsi de contacter CTLM. Ça, c'est un ami, Stéphane. Si elle s'est éloignée un peu beaucoup du monde du cinéma, c'est aussi pour se consacrer à de grandes causes, comme le droit des femmes et la lutte contre le sida. Bravo Sharon. On a rarement connu tel engagement de la part d'une célébrité, à part peut-être celui de Stéphane pour les vérandas Akena.
Akena, c'est votre véranda.
Je vous le redis, Sharon est une star, une légende, une femme engagée, une battante et surtout, une survivante. Survivante de la masculinité toxique d'Hollywood, de ses propres démons, des défaillances de son corps, des accidents de la vie et du survêt en peau de pêche. Une des pires tendances mode ayant existé. Longue vie à elle.
Merci.
Non, mais... Je vous ai réveillé, excusez-moi.
Non, mais pas réveillé, c'est que
mais elle tourne plus du tout.
Aujourd'hui, on peut avoir des AVC, C'est des micro-AVC, quoi.
Ça bah, si c'est pris à temps, oui, heureusement, on peut s'en sortir.
Et donc, il n'y a pas de raison pour qu'à Hollywood, tout d'un coup...
Non, bah, elle a eu quand même des complications. Elle a mis 2 ans avant de retrouver toutes ses fonctions.
C'était pas un micro-AVC, ça.
Elle est toujours aussi belle.
Et maintenant, elle fait des pubs pour des lunettes.
Oui. Oui, mais elle est belle, hein, elle est toujours aussi belle. Bah, 64 ans, elle est incroyable.
Elle est très très belle.
Oui. Merci en tout cas Jean-Luc.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages qui ont brisé la glace pour retrouver deux garçons qui la préfèrent en glaçon. David Cassiopès, vous nous racontez les origines de l'avion en papier.
Exactement.
Mais avant ça, comme chaque jour, mais à quelle époque, aujourd'hui on parle cuisine avec vous. Olivier Pouls, notre guide culinaire vivant et même bon vivant. Ça s'est passé dans le passé, on remonte au temps de Napoléon pour découvrir que l'empereur n'aimait pas manger.
Oui, et il est assez rare de trouver dans l'histoire des hommes aussi peu concernés par la nourriture que l'était Napoléon Bonaparte. Manger était pour lui une lamentable perte de temps et ses repas étaient avalés en quelques minutes à peine. On dit que s'il avait pu déléguer le fait de se nourrir à quelqu'un d'autre, il l'aurait fait. Lorsqu'il était en campagne, Napoléon mangeait au mieux debout sur un petit guéridon, mais le plus souvent carrément sur son cheval. Il mangeait vite, mal, comme un cochon, dit-on, avec ses doigts et s'essuyait ensuite dans son uniforme. Pas très classe. Et lorsqu'il n'était pas en campagne, ses repas avec l'impératrice étaient à peine plus civilisés. Tout devait être expédié en 20 minutes. Il exigeait que seuls 2 plats au maximum soient servis. Il mélangeait le salé et le sucré et quittait la table aussitôt la dernière bouchée avalée. Il avait de surcroît la phobie de l'empoisonnement et renvoyait immédiatement toute denrée qui lui paraissait un tout petit peu louche. Napoléon assume d'ailleurs cette frugalité. Hein. Si vous êtes petit mangeur, venez chez moi, s'amusait-il à dire.
Ouais, il y avait quand même des petits plats, des mets qui pouvaient lui faire plaisir quand même.
Oui, oui, les lasagnes de sa maman, par exemple. Ah. Il aimait aussi les œufs. Alors, son seul essai culinaire fut d'ailleurs la réalisation, ou tout au moins la tentative de la réalisation d'une omelette qui lui a échappé au moment de la retournée qui a fini par terre. Alors, s'il déteste la viande rouge et le gibier, il apprécie en revanche le mouton et surtout le poulet préparé à la marengo, une recette créée en l'honneur de sa victoire éponyme dans une plaine du Piémont en 1800. Il s'agit d'un poulet ou de viande de veau. Les deux sont autorisés.
Je chassais veau maringo, moi.
Oui, parce qu'on dit le veau maringo aujourd'hui. À l'origine, c'était du poulet.
Au poulet, oui. Agrémenté de sauce tomate, de vin, de cognac, d'huile d'olive. Bref, tout ce que son cuisinier avait pu trouver sur place au moment de la victoire. Alors, il appréciait aussi les dattes et mâchouillait des bâtons de réglisse une bonne partie de la journée. Côté boisson, l'empereur buvait du vin coupé à l'eau, bah oui, et sa préférence allait quand même vers le Chambertin, l'un des plus célèbres grands crus de Bourgogne. Plusieurs tonneaux, d'ailleurs, l'accompagnaient systématiquement lorsqu'il voyageait. Il lui arrivait aussi de boire un petit peu de champagne, et à la fin de sa vie, lors de son exil sur l'île de Sainte-Hélène, il s'était pris de passion pour un vin doux d'Afrique du Sud, le vin de Constance, qu'on lui fournissait abondamment et qui a accompagné ses derniers instants.
Pourtant, Napoléon avait parfaitement compris l'importance de la diplomatie culinaire.
Oui, et c'est là le paradoxe. Cet homme qui détestait manger savait qu'un repas pouvait changer le cours des choses. Il avait donc délégué la tâche de mener à bien cette mission à 2 de ses éminents diplomates, qui ne s'en sont d'ailleurs pas plaints, Talleyrand et Cambacérès. Son mot d'ordre était le suivant. Accueillez à vos tables toutes les personnalités françaises et étrangères de passage à Paris, auxquelles nous avons à faire honneur. Ayez bonne table, dépensez plus que vos appointements, faites des dettes, je les paierai. Autant vous dire que eux, ces fins gourmets, ne s'en sont pas privés. Ils faisaient bombance avec la bénédiction de l'empereur. Talleyrand s'était d'ailleurs adjoint les services du plus prestigieux des cuisiniers de l'époque, Antonin Carême, dont le talent éblouissait les convives. Et puis, il y avait évidemment l'impératrice Joséphine qui recevait avec beaucoup de faste dans son château de Malmaison. Elle dépensait, elle, sans compter, des grands vins, des repas fastueux, de la vaisselle de prestige, ce qui avait d'ailleurs le don d'exaspérer Napoléon. Quel paradoxe amusant quand même, puisque durant le règne de cet homme pour qui la table n'avait aucun intérêt, la cuisine française connut l'une des périodes les plus fastes de son histoire, avec entre autres la naissance des restaurants, leur développement, et aussi la création de nombreux plats ou l'avènement de chefs importants, comme le célèbre Antonin Carême.
Bah bravo, merci beaucoup Olivier, mes aïeux qu'à l'époque.
Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern.
Les origines.
Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Pouls, et surtout avec vous, David Cassel-Lopez, pour nous raconter les origines des avions en papier.
Oui. À votre avis, l'avion en papier a-t-il été inventé avant ou après l'avion, pas en papier?
Moi, je dirais un peu plutôt avant, parce que regardez.
C'était les prototypes.
Oui, avant bien sûr, vous avez 100% raison, vous êtes super intelligent. Alors, il y en a qui disent que ce sont les Chinois, il y a 2000 ans, qui ont inventé les avions en papier.
Ils faisaient des lampions avant qu'il y ait de la lumière.
Oui, voilà. D'autres qui disent que c'est Léonard de Vinci.
Oui.
Mais j'ai l'impression que quand on ne sait pas très bien qui a inventé quelque chose, on dit Léonard de Vinci, on a une chance sur deux d'avoir raison. Non, ceux qui ont inventé l'avion en papier, ce sont, Olivier Pouls l'avait bien deviné, les pionniers de la recherche sur les vrais avions. Parce que pour construire des avions, eh bien, il vaut mieux commencer à faire des tests de petite taille avec des matériaux pas chers. Le premier dont on est la trace, c'est un monsieur anglais qui s'appelait George Cayley. George, c'est un pionnier de l'aéronautique, début du 19e siècle. C'est lui notamment qui a découvert les quatre forces qui entrent en jeu dans le vol d'un avion, à savoir le poids, c'est-à-dire la force qui pousse l'avion vers le bas, la portance, c'est-à-dire la force qui pousse l'avion vers le haut, la poussée, qui est la force qui pousse l'avion en avant, et la traînée qui s'oppose à l'avancée de l'avion. L'idée étant d'avoir un équilibre entre ces quatre forces. Alors lui, ses avions n'étaient pas encore strictement en papier, mais en lin. Les premiers vrais avions en papier qu'on connaît, ce sont ceux des gens dont on considère qu'ils sont vraiment les inventeurs de l'avion. C'est qui ? Alors en France, on a tendance à dire c'est Clément Ader. Pas vraiment, pas volé beaucoup, c'est décollé de 10 cm. Les vrais inventeurs de l'avion.
Lindbergh.
Il a traversé l'Atlantique.
Avait déjà bien inventé un avion.
C'était pas les débuts de l'aviation. Non, c'est les frères Orville et Wilbur Wright. W-R-I-G-H-T. Des célébrités très grandes aux États-Unis.
Ils ont pas de
revue
chez nous.
Oui, exactement. eux, les frères Wright, des Américains, donc on sait qu'ils ont fait des modèles réduits de leurs avions en papier. Mais évidemment, quand on parle d'avion en papier, on veut surtout parler du jeu d'enfant consiste à plier une feuille de papier de façon aérodynamique et de la lancer sur la maîtresse parce que c'est rigolo.
Et ça, vous savez faire parce que vous n'écoutiez pas à l'école.
C'est vrai que ça, j'étais un petit peu dissipé.
Voilà. Moi, j'écoutais et donc j'ai su faire du papier.
Pas d'avion en papier. On sait que les enfants, ils faisaient déjà ça au milieu du 19e siècle. Ouais. Donc, avant l'apparition des premiers avions. Sauf qu'ils appelaient pas ça des avions en papier, mais évidemment, mais des fléchettes en papier. Le terme avion en papier, il a pris définitivement son essor que lorsque les avions de chasse des armées ont commencé à leur ressembler. Les avions de chasse, c'était la première fois qu'il y avait des avions qui ressemblaient aux avions en papier.
Parce que l'avion de Lindbergh, il ressemble pas du tout.
Hein, pas du tout. Et ça, c'était quand est-ce que les avions de chasse ont commencé à ressembler aux avions en papier? C'est quelque part entre les années 50 et les années 60. Alors peut-être que certains d'entre vous le savent, il existe des compétitions d'avions en papier dans lesquelles les concurrents doivent construire leur avion en papier à partir d'une feuille standard et le lancer le plus loin possible. Le record du monde, il a été battu très récemment en décembre 2022 par trois jeunes Américains qui ont envoyé leur avion à plus de 88 mètres de distance. Mais ça, c'était avant le grand concours d'avions en papier d'Historiquement Vôtre 2023. Messieurs, avant le début de cette émission, vous avez chacun reçu une feuille de papier A4 et il vous a été demandé d'en faire un avion. Il est l'heure à présent de déterminer lequel d'entre vous est le plus fort en avion. Alors, le studio Coluche d'Europe 1 dans lequel nous nous trouvons est trop petit pour qu'on y lance des avions. Heureusement, je possède un micro avec un très long fil. J'ai un micro avec un très très long fil qui va nous permettre de nous déplacer dans le couloir d'Europe 1 qui se situe à quelques mètres et je vais commenter en direct vos lancers. Messieurs, suivez-moi. Voilà, on a que quelques pas à faire pour sortir du studio. Je suis donc avec. Attendez, il faut qu'on le fasse dans l'ordre. Donc je suis avec Stéphane Bern, Jean-Luc Lemoine et Olivier Pouls. Olivier Pouls, j'ai décidé que vous seriez le premier à lancer. On est ici donc dans le couloir d'Europe 1. Comment vous vous sentez avant ce premier lancer ?
Bien, et je me suis toujours demandé d'ailleurs pourquoi on faisait toujours comme ça, en souffler sur le nez de l'avion avant de le lancer.
Ça, peut-être que ça va améliorer l'efficacité de votre avion. Vous avez donc marqué dessus Air Pulse. Je vous en prie, c'est quand vous voulez, vous lancez l'avion dans le couloir d'Europe 1. Un lancer qui n'est pas mal, qu'on peut évaluer peut-être à 3 ou 4 mètres. 1, 2, 3, 3 mètres et demi. C'est pas mal, on peut qualifier ça de pas mal, mais pas top non plus. Jean-Luc Lemoine, alors vous avez un avion qui a de la gueule, hein. Si c'était, on sent que c'est moderne. Vous, depuis le début, je sens que vous êtes bien confiant.
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, je me suis pris tellement de honte avec des avions en papier que depuis, j'ai regardé des tutos.
Il est remarquable. On dirait une Tesla, hein, ou une Aston Martin, ou une Mercedes. On s'est parti. Jean-Luc Lemoine lance son avion. Wow. Ah, c'est beaucoup mieux qu'Olivier Poul, c'est beaucoup mieux. Double, voilà, on est peut-être à 5 mètres. Et maintenant, roulement de tambour pour Stéphane Bern, qui a donc un avion qui est de R, historiquement vôtre, avec les feuilles de l'émission. C'est parti, Stéphane Bern lance son avion. C'est un échec total, vraiment, catastrophe aérienne. On a donc un vainqueur, et ce vainqueur, c'est Jean-Luc Lemoine. Jean-Luc, bravo.
Je suis tellement fier. C'est pour toute ma famille et pour tous ceux qui croient en moi depuis le début.
Merci beaucoup à vous tous. On peut revenir en studio à présent. Il faut que je meuble le temps que Stéphane Bern retrouve sa place. Merci beaucoup et bravo à Jean-Luc Lemoine, le grand champion 2023 voilà. Du lancer d'avion de l'histoire.
Bravo, vraiment. Merci David. On retrouve Les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo. Là, pour le coup, ça le vaut. Sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr, site sur lequel vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, Historiquement Vôtre, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages qui ont fait de leur mère leur héroïne. Colette, dont on célèbre le 150e anniversaire de la naissance et qui a fait de Sido, sa maman, l'héroïne d'un de ses romans. Puis lui aussi a raconté sa mère dans ses écrits, dans sa Promesse de l'aube, surtout Romain Gary. Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez un comédien qui a non seulement fait de sa mère son héroïne, mais l'a carrément interprété lui-même.
Oui, Guillaume Gallienne, dans ce qui reste son plus gros succès au théâtre et au cinéma, Guillaume et les garçons à table.
J'arrive.
Non, je citais le film, Stéphane.
Ah oui, d'accord. Bon, ben, bon appétit quand même s'il y a un peu tôt. Demain, les amis, à demain, chers auditeurs.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.